Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengirma.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. À Sud Radio, on aime mettre en lumière ces entrepreneurs inventifs, ingénieux, courageux qui font le choix du produire en France. Donc il y a ces entrepreneurs qui produisent en France, il y a ceux qui œuvrent pour promouvoir ce Made in France, pour vous prouver en apportant des preuves concrètes que c'est possible de produire en France. Alors en parlant d'ingéniosité, vous découvrirez tout à l'heure des entrepreneurs qui proposent des abris en bois écologiques et qui reposent sur des techniques innovantes. Mais tout de suite, découvrons ensemble notre premier invité.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour Anthony Vitorino.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Alors j'évoquais tout à l'instant ceux qui œuvrent pour encourager nos entrepreneurs à faire le choix du French Fab. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Produire en France, le magazine de ceux qui le
prouvent.
Lancé par ProFrance, à l'association fondée par Yves Jégot, qui porte donc la certification Origine France Garantie. Peut-être déjà en dire deux mots sur cette certification.
La certification Origine France Garantie, c'est la seule certification universelle qui garantit du produire en France. C'est-à-dire qu'elle est plus exigeante que la simple déclaration du Made in France qui est accordée avec le droit douanier. Là, c'est vraiment exigeant. Il y a un audit indépendant par des organismes certificateurs. C'est une certification qui a été créée vers 2010 par Yves Jégot, effectivement, qui en est toujours le président et qui œuvre beaucoup. Il y a plus de 600 entreprises aujourd'hui qui sont certifiées.
Avec deux critères principaux, il faut que 50% du produit au moins, du prix de revient,
ouais,
se fasse sur le territoire français. Et il faut aussi que le produit prenne sur le territoire français ses principales caractéristiques.
Exactement.
Pour éviter effectivement des produits fabriqués à l'étranger et juste étiquetés en France et labellisés Made in France.
C'est ça, c'est tellement précis que ce n'est pas l'entreprise qui est certifiée en elle-même, ce sont ses gammes.
Les produits qui sont certifiés.
Exactement.
Et donc il y a ce magazine. Ce
oui.
magazine, bientôt le
numéro 4, demain.
Alors raconte-nous un petit peu la genèse de ce magazine.
Eh bien, la genèse de ce magazine, c'est Yves Jégot qui a eu l'idée de ce magazine et qui m'a contacté pour qu'on le définisse ensemble et qu'on travaille ensemble dessus. Le premier numéro est sorti au mois de septembre. Et effectivement, là, on a le numéro 4 qui sort en kiosque dès demain et aussi sur les plateformes numériques. Et on est très fiers de ce magazine parce que c'est un trimestriel qui marche bien. Et les entreprises sont contentes aussi de voir comment on parle d'elles, parce qu'on parle vraiment des entreprises, des entrepreneurs et de leur aventure. Et nous, créer ce magazine avec Yves Jégot, c'était finalement une entreprise telle que peuvent le concevoir les entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on a tout créé, il fallait se lancer dans l'aventure et on a osé ce pari.
Alors, il s'adresse à qui ce magazine ?
À tout le monde. C'est-à-dire à tous ceux qui aiment le produire en France, qui sont curieux du produire en France. Mais c'est aussi un magazine qui est rangé en presse économique et presse d'entreprise. Donc, on parle aussi aux chefs d'entreprise. On parle de l'actualité du produire en France et puis des entreprises.
Donc, il y a des portraits, il y a des interviews, il y a des enquêtes.
Il y a des enquêtes, il y a du carton rouge aussi quand il le faut pour pointer un peu du doigt ce qui ne va pas, ce qui ne tourne pas
rond. Le dernier carton rouge, c'était, je crois, pour l'équipe de France, dans les maillots de l'équipe de France.
Alors, ça, c'était dans le numéro 1, effectivement, ouais. Parce que M. Jégot l'avait souligné, c'était un petit peu ahurissant de se dire que la France, championne du monde de football, ait des maillots fabriqués en Thaïlande pour un coût de revient vraiment très très bas et vendu très très cher. Ça n'a pas d'ailleurs réussi à l'équipementier qui n'a même pas pu fournir à Noël des t-shirts pour les supporters.
Alors le thème du prochain numéro, quel est-il ?
Lancez-vous, Produire en France, un spécial Lancez-vous, parce que on le voit, il y a une dynamique autour du Produire en France. De plus en plus d'entrepreneurs, et c'est tant mieux, veulent se lancer dans l'aventure. Mais sauf que ce n'est pas toujours très très simple. Il faut se repérer dans l'administratif, le juridique, et puis aussi trouver son circuit de distribution. Parce que quand on a une bonne idée, ah oui, mais on fait fabriquer où et comment ? Eh bien voilà, on répond un petit peu à toutes ces questions.
C'est presque un mode d'emploi, savoir où taper, à quelle porte.
C'est un guide, mais comme toujours dans Produire en France Magazine, on a donné la parole à ceux qui savent, à ceux qui font. Pour la création d'entreprise, on a donné la parole à Guillaume Gibault, qui est le président fondateur du CIF français, un ambassadeur aujourd'hui.
Bah, c'est devenu un modèle pour la majorité des jeunes entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui dans le produire en France.
Exactement.
Donc c'est un très bon exemple.
Et il a une chaîne vidéo sur YouTube d'ailleurs qui s'appelle « J'y vais, mais j'ai peur », où il fait plein de petits tutos très intéressants avec des thématiques différentes. Et puis pour la reprise...
Alors justement, oui. Guillaume Gibault, alors quel conseil donne-t-il à nos jeunes entrepreneurs pour se lancer, pour faire le grand saut ?
Le grand saut, de ne pas s'isoler. C'est-à-dire de ne pas se dire « j'ai une bonne idée, il ne faut pas que j'en parle parce que sinon on va me la piquer ». Il le dit lui-même, si on vous pique l'idée, c'est qu'on avait déjà eu l'idée avant. Donc de ne pas s'isoler et d'oser taper aux portes et d'aller voir les autres entrepreneurs, d'aller voir les usines et vraiment de tester en fait son produit avant.
C'est ça, partager l'idée et il faut y aller.
Faut y aller.
Parce que dès le moment où de toute façon on se lance, on est obligé de parler de son idée. C'est le meilleur moyen de savoir si on est sur la bonne voie.
Exactement.
Ou pas. Et le deuxième entrepreneur, là encore un emblème du Made in France.
Évidemment, un héros, Thomas Huriez, qui lui nous parlera de la reprise parce qu'il a repris une filature en septembre dernier dans les Vosges, Valrup, qui est devenu maintenant Tissage de France. Et donc, il va vraiment mettre en avant les conseils pour la reprise.
Alors, Thomas Huriez, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fondateur des Jeans 1083, fondé en 2013. 1083, car c'était la distance la plus éloignée des deux extrémités de la France, de ville de France.
Et la pointe du Finistère.
C'est ça, ouais. Entre le Sud et la Bretagne. Et son nouveau défi, maintenant, c'est effectivement de reprendre cette filature qui était en redressement judiciaire.
Exactement, et donc il l'a reprise au mois de septembre. Donc entre le 31 août et le 1er septembre, 1083 a eu plus 35 employés.
Mais c'est incroyable.
Il a sauté dans un TGV à grande vitesse, comme il le dit.
En fait, il grossit à vue d'œil. Pas lui, mais son entreprise. Parce que les jeans, les chaussures, il y a un an, il a repris l'entreprise Charles Jourdan pour en faire un lieu de production, lieu de visite également, pour mettre en avant justement ce savoir-faire français. Et là, il rachète une filature, donc il va maîtriser finalement toute sa chaîne de production de A à Z.
Oui, mais enfin, il l'explique aussi très bien dans le magazine, Thomas, c'est que quand il a lancé 1083, c'était un petit peu compliqué d'aller voir les filatures et de dire, voilà, nous, on a besoin d'un coton filé en France. Et cette filature a été une des premières à lui faire confiance et qui a été partenaire pendant donc 6 ans. Et aujourd'hui, elle se trouve en difficulté. C'était impensable pour lui de les laisser tomber. Et donc, il fallait sauver ce savoir-faire. Il faut savoir que la filature et le textile en France, ce n'est pas que l'habillement. C'est aussi le textile technique pour l'aéronautique. Enfin, il y a tout un tas de domaines très importants. Et surtout, le textile, c'est un des enjeux mondiaux de demain. Parce que après les crises du pétrole, donc ça va toucher l'acrylique, il y aura certainement des crises autour du coton. Et on va devoir maîtriser en France ce domaine pour vraiment pouvoir être compétitif.
Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un message encore plus fort derrière cette reprise de l'entreprise. C'est vraiment prouver que la filature, le tissage en France ont de l'avenir.
Il ne reste que 4 filatures en France.
Oui, plus que 4. Et ça, ce sont des jeunes entrepreneurs qui ont juste la trentaine et qui se lancent comme ça, qui reprennent ces entreprises.
Oui, mais il y a aussi des reconversions formidables. Parce que c'est ça qui est riche dans cet univers du produire en France. C'est que finalement, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'histoire type. C'est que c'est ouvert à tous. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, finalement, dans cette dynamique, dans ces synergies qui se créent. C'est une espèce de fraternité. C'est une des devises de la France. Et je trouve que le produire en France la résume assez bien.
Alors ça, ce sont nos entrepreneurs que l'on découvrira dans le prochain numéro Produire en France qui sort le...
Le 15 avril, demain.
Donc demain. Et les interviews politiques, alors j'ai cette chance d'avoir la maquette.
Oui.
Et je vois une très belle photo de notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Exactement, qui a accepté de faire la couverture de ce numéro 4. Bah, on parlait de Produire en France, lancez-vous. On est dans les temps de la loi Pacte, qui est portée par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. On s'est dit avec Yves Jégo que c'était totalement légitime de lui donner la parole pour qu'il la détaille, parce qu'il y a beaucoup de mesures dans cette loi Pacte, notamment sur la simplification de la création des entreprises avec le guichet unique, mais aussi d'autres mesures qui viennent pour protéger les entreprises. Il y a notamment des mesures qui sont prises sur les conditions de paiement, les paiements tardifs.
C'est important,
effectivement. On a plein d'entreprises en France qui produisent, mais qui sont dans des difficultés financières parce que les clients ne payent pas dans les temps. Cette loi, par exemple, va proposer des mesures assez efficaces là-dessus. Donc, il est détaillé dans ce numéro 4 qui sort demain. Et moi, je ne peux que le remercier. Je suis très fier d'avoir Bruno Le Maire dans ce magazine. Ouais.
Et Renaud Dutreil également est présent dans ce magazine.
Oui, dans le dossier Ils y croient. Alors là, on fait plus la lumière sur ces jeunes entrepreneurs dans l'aventure, puisque Renaud Dutreil et 3 autres associés ont repris 4 manufactures de charentaises et de souliers pour les rassembler sous une grande maison, la manufacture de charentaises. Et donc, on parle de cette aventure. Et puis, voilà. Et on a aussi des inédits dans le magazine. Le matin où je faisais l'interview de Renaud Dutreil, il apprenait que la charentaise était protégée par l'IGP.
L'indication géographique protégée.
Exactement.
Ça, c'est important également pour justement maintenir les savoir-faire dans leur zone géographique.
Tout à fait.
Et éviter, là encore, de la copie.
Que le nom puisse être mis sur n'importe quoi, fabriqué n'importe où et n'importe comment.
Alors, il ne nous reste plus que quelques secondes. Allez, Anthony Vitorino, rédacteur en chef du
Nathalie
magazine
Schrein.
Produire en France. 15 secondes pour nous convaincre d'acheter ce magazine qui sera présent demain dans les kiosques en France.
15 secondes, eh bien, produire en France le magazine de ce qu'il prouve pour les lecteurs qui veulent savoir exactement qui se cache derrière les produits de notre quotidien et qui se cache dans notre belle et grande industrie française.
Merci beaucoup Anthony Vitorino. On se retrouve dans quelques instants pour découvrir une entreprise qui, elle, a su innover dans les abris en bois 100% made in France. À tout de suite.
Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent dans C'est ça la France, une émission consacrée au savoir-faire français, au Made in France, à ceux qui le prouvent tous les jours, à ceux qui l'accompagnent, qui en font la promotion. Alors on va continuer donc cette émission avec une très belle entreprise installée dans le Haut-Jura qui a eu l'excellente idée de se lancer dans la création d'espaces en bois.
Sud Radio, C'est ça la France.
Et on en parle tout de suite avec l'architecte Nelson Villemotte. Bonjour Nelson.
Bonjour.
C'est vous qui êtes à l'origine de ce beau projet. Alors Nelson Villemotte, vous êtes donc le fils de Jean-Michel Villemotte. Vous êtes donc, on va dire, une lignée d'architectes. Vous avez créé très tôt votre entreprise, dès la sortie de l'école, votre cabinet d'architecte. Et vous avez une passion pour les cabanes, depuis toujours.
Exactement. Mais écoutez, oui, effectivement, depuis toujours, je construis des cabanes où je peux. Et puis voilà, un jour est venue l'idée de venir créer Copacabanon.
Oui, alors expliquez-nous un petit peu le concept, parce que là, c'est vraiment toute une gamme de cabanes à vivre en bois.
Voilà, alors l'idée, en fait, on est parti du constat qu'en fait, il n'existait pas vraiment sur le marché aujourd'hui des produits de qualité ayant à la fois une esprit soignée des cabanes, des matériaux robustes et dans un budget raisonnable. Donc, en fait, on a développé des produits ayant esthétique, avec une signature architecturale qui lui est propre. Des produits qui sont entièrement personnalisables et modulables, donc on peut faire vraiment ce qu'on veut avec nos produits à partir de certaines gammes, et le tout fabriqué en France, donc dans un circuit court de fabrication et dans des forêts gérées durablement.
Donc circuit court, 100% français, exactement, avec des matériaux de qualité et en plus dessiné par un architecte. Donc
exactement,
on a le côté esthétique qui est très important également.
Voilà, le côté esthétique, alors du coup le projet en fait s'est développé en parallèle avec des professionnels de la filière bois, parce que l'idée c'était d'allier à la fois nos savoir-faire entre architectes et artisans, et donc tout ça a été l'aboutissement donc de 3 ans de recherche avec des artisans du Haut-Jura, et on a mis au point des procédés de fabrication qui ont permis de développer toute une gamme de cabanons. Aujourd'hui, on fait aussi bien des abris de jardin que des cabanes d'enfants, des cabines de plage. On a une large gamme de produits qui sont découlés de nos recherches.
Donc, pour que nos auditeurs comprennent bien, effectivement, donc on part de la petite cabane de jardin à la cabane à vivre, avec tout
exactement,
le confort.
Exactement. C'est effectivement l'abri de jardin classique, comme on l'entend, avec notre esthétique qui est propre, jusqu'à aujourd'hui, des petites maisons en bois qui vont jusqu'à 50-55 mètres carrés, qui sont entièrement équipés, isolés et entièrement personnalisables.
Mais c'est le même principe constructif, quelle que soit la taille du cabanon.
Exactement. Après, effectivement, c'est les épaisseurs de bois qui évoluent, c'est les épaisseurs d'isolation également, c'est les finitions intérieures qui évoluent en fonction des besoins du client.
Donc c'est déclinable à souhait, c'est personnalisable.
Voilà, c'est entièrement personnalisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez définir si vous voulez une cabane entièrement vitrée, mettre une porte-fenêtre, si vous voulez avoir une toiture, une ouverture en toiture, si vous voulez une finition particulière sur votre cabane, si vous la voulez sur pilotis ou pas. Voilà, vous pouvez tout choisir, même dans les matériaux intérieurs et extérieurs.
Alors justement, en parlant des matériaux, ce n'est pas des cabanons réalisés avec de simples planches en bois. Là aussi, il y a une innovation à ce niveau-là.
Exactement. Donc, on utilise aujourd'hui plusieurs choses. On utilise des panneaux 3 plis. Alors, les panneaux 3 plis sont un assemblage de 3 plis d'épicéa qui donne une plus grosse
robustesse
au produit,
au cabanon.
Exactement. Merci. Voilà. Effectivement, aujourd'hui, avec ce type de matériaux, on peut affiner les épaisseurs parce que c'est beaucoup plus résistant que du bois massif. Et on vient allier à ça ce qu'on appelle notre bardage en extérieur, qui donne davantage plus de rigidité à nos panneaux.
Alors concrètement, comment ça se passe? Moi, je suis intéressée par un des cabanons. On va sur un site internet, on choisit entre plusieurs modèles, dimensions.
Exactement. Donc vous avez plusieurs possibilités. Voilà. Aujourd'hui, on a, il me semble, 5 lignes esthétiques qui sont présentes sur le site. Voilà. Soit vous choisissez un modèle, On a le modèle Ardennes, le modèle Grison, le modèle Kobe. Vous choisissez un modèle, on vous développe sur mesure en fonction de vos souhaits, ou sinon vous avez un désir très particulier, et là on vous le développe pour vous sur mesure, avec vraiment sans limite de prestations, on va dire.
Et contrairement à ces cabanes en bois que l'on peut trouver dans certains grands magasins qu'on ne citera pas, fabriqués en Europe de l'Est ou ailleurs, là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, tout est fait dans le Haut-Jura. C'est du 100%
Exactement.
Français.
C'est 100% français, parce que c'est fabriqué dans nos ateliers dans le Haut-Jura. Donc on a voilà, une quinzaine d'artisans qui travaillent sur nos produits, avec des produits, avec des bois qui sont vraiment issus des forêts locales. Donc vraiment sur les circuits courts.
Donc on a une démarche écologique qui est très importante également, et cette volonté de miser sur les circuits courts.
Exactement. Bah, c'était vraiment l'idée dans le concept de Copacabana. En plus de son concept vraiment avec une signature architecturale, des produits entièrement personnalisables, on avait vraiment envie d'avoir ce souhait de faire un produit 100% français, respectant l'environnement.
Alors il y a un autre projet en cours, un concept qui n'est pas encore, je crois, disponible sur le marché, c'est la maison en kit Copacabana de 15 mètres carrés. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Exactement. Donc c'est une maison qui est de 15 mètres carrés, qui, elle, ne sera pas personnalisable, parce qu'on achète cette maison comme on la présente aujourd'hui, qu'on peut équiper, si on le souhaite, d'un espace sanitaire ou d'une cuisine. Et dedans, voilà, c'est une maison qui coûtera moins cher que celle qu'on propose aujourd'hui en maison à vivre sur notre site, parce que finalement, ce sera un modèle unique sans modification.
Merci beaucoup, Nelson Wilmotte. Alors, vous avez sûrement entendu parler de ces abris de jardin qui seront peut-être surtaxés. Je ne sais pas si ça a été validé. Bon, j'espère que non.
C'est en cours. Écoutez, je pense que cela n'affectera pas le marché de la cabane en bois, parce que je pense que c'est quand même un projet évocateur d'évasion de rêve, et du coup, il n'y a pas de limite au rêve, on va dire.
Oui, alors avec un nom comme Copacabana, déjà vous nous faites rêver, là on se croit presque au Brésil, sur la plage.
exactement, voilà, c'était d'allier, c'est un jeu de mots entre Cabana et Copacabana, voilà, évocateur de rêve.
Merci encore Nelson Wilmotte, à l'origine donc de ce beau projet Copacabana. Donc voilà, en France, on innove. Si on veut avoir un beau cabanon en bois avec une signature architecturale entièrement fabriquée en France, c'est possible. Merci Nelson Wilmotte.
Merci à vous.
Au revoir.
Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter.
Il est temps de voyager avec notre French Trotter Thibaut. Alors, on part où cette semaine, Thibaut ?
Alors, direction les Pyrénées-Orientales, et plus précisément le village de Montlouis, juste à côté de Font-Romeu. Alors, Montlouis, c'est une citadelle fortifiée par Vauban. Et je vous rassure, on ne va pas parler histoire, Nathalie, car si je suis allé là-bas, c'est pour y rencontrer Denis Eudeline, un ingénieur en énergie solaire, qui a repris en main l'un des tout premiers prototypes de four solaire.
Alors, peut-être rappeler à nos auditeurs ce qu'est un four solaire.
Alors, un four solaire, il faut imaginer un immense miroir parabolique qui permet de concentrer les rayons du soleil pour en capturer la chaleur. Et la particularité de ce four, c'est qu'il est à double réflexion. Mais rassurez-vous, je ne vais pas m'amuser à vous raconter comment ça marche. Je préfère laisser Denis Eudeline vous expliquer le principe de cette invention made in France.
Alors, nous avons en face de nous le concentrateur parabolique qui est composé de 860 miroirs légèrement déformés en creux. En face du concentrateur, nous avons l'héliostat, ce grand miroir plan orientable qui fait 140 mètres carrés de surface, qui fait une quinzaine de tonnes, qui va suivre automatiquement la course du soleil pour toujours envoyer les rayons sur le concentrateur. Donc on a ici une double réflexion, ce qui nous permet d'avoir des températures extrêmement élevées, de l'ordre de 3000 à 3500 degrés, avec 50 000 watts de puissance thermique.
Pour les auditeurs, on peut dire qu'il est monumental. Combien il mesure ?
Alors le concentrateur fait 10 mètres de haut ou 12 mètres de large. C'est monumental, mais c'est encore à taille humaine. Le four solaire d'Odeio est 20 fois plus grand. Le concentrateur est plus grand que l'Arc de Triomphe. Pour vous donner une idée, à Montlouis, on a une installation qui est à taille humaine.
On imagine bien ces miroirs géants qui produisent de la chaleur, mais quelle est la différence entre un four solaire et un panneau solaire ?
En fait, vous l'avez dit, les fours solaires produisent de la chaleur. On parle d'énergie solaire thermique. Alors qu'un panneau photovoltaïque capte le rayon du soleil pour en faire directement un courant électrique. Alors je voudrais juste revenir sur l'historique de ce four solaire de Montlouis, parce que écoutez, là aussi c'est vraiment passionnant.
C'est le professeur Félix Trombe qui a créé le four solaire en 1949. C'est une invention française de Félix Trombe. Et après le succès de Montlouis, qui a été un succès planétaire, Félix Tombe a construit également le grand four solaire d'Odeillo, qui est en bas de Font-Romeu, qui est la même installation, mais 20 fois plus grande. Et pour la petite histoire, au départ, le four solaire de Mont-Louis devait faire 300 kW. Évidemment, Félix Tombe n'a pas eu l'argent pour construire à 300 kW. Donc après le succès de Mont-Louis, ben, il a fait un four solaire beaucoup plus grand de 1000 kW. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Alors, quand on parle de Made in France, il faut savoir que la production de céramique qui est réalisée ici au four solaire, l'argile vient de France, ça vient de Saint-Amand-en-Puisaye. C'est un potier français de Villefranche qui nous fait les pièces et c'est moi qui les cuis au four solaire. Donc c'est vraiment, les émaux sont français, tout est français. Donc,
tout un écosystème 100% français.
Oui, absolument. Là, on est vraiment dans le Made in France à 100%. La même chose quand on fond du bronze, le métal est français.
Qu'est-ce qui a poussé Félix Tombe à faire ses études? Qu'est-ce qui a motivé ses recherches?
Alors, Félix Tombe était un chimiste, chercheur et chimiste, et il avait besoin de températures élevées. Et comme il a été prisonnier de guerre, je pense qu'il a vu les anciens projecteurs de DCA. Je suppose qu'il a dû y avoir un accident un jour où un projecteur était orienté face au soleil, ça a tout fondu à l'intérieur, ça a dû lui donner les idées. L'ancien projecteur de DCA que l'on a ici va chauffer jusqu'à 4000 degrés, parce qu'on a 16 000 de concentration. Plus c'est concentré, plus c'est chaud, et plus le miroir concentrateur est grand, plus on a de puissance.
On peut en faire des choses avec ce four
solaire. Oui, c'est incroyable.
Donc, il sera à cuire des céramiques, à faire de la poterie, à faire fondre le bronze. Ouais. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue cette belle découverte 100% Made in France la semaine prochaine, car vous êtes resté un petit moment avec Denis Edeline.
Bah oui, on fait comme ça, rendez-vous la semaine prochaine.
Merci beaucoup Thibaut. Merci à vous Anthony Vittorino,
merci
rédacteur
à vous, Nathalie,
en chef du magazine Produire en France, qui sort
demain, le 15 avril, en kiosque et en numérique sur ePresse et lekiosque.fr.
Et il y a un autre rendez-vous très important en septembre, fin septembre.
Et oui, les Assises du Produire en France, c'est le grand rendez-vous pour tous les passionnés de Produire en France. Cette année, ce sera à Paris, au Pavillon Baltard. C'est une formule inédite, vraiment, et les inscriptions sont déjà ouvertes et c'est gratuit. Et c'est sur le site assisesduproduireenfrance.fr.
Merci encore Anthony Vittorino, rédacteur en chef du magazine Produire en France. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et je vous souhaite avant tout un bon dimanche.
Sud Radio, c'est ça la France.